seconde table ronde. Peut-on recycler ? Vers quelle rentabilité ?
Les penseurs de l'économie circulaire partent du principe que les ressources de la planète étant limitées, il serait plus avisé de recycler, de réparer, de réutiliser les matériaux utilisés à la fois par les ménages et par l'industrie plutôt que de les jeter après utilisation. Jusque-là, ça paraît simple. Mais il y a toute la question de savoir comment gérer, comment recycler, comment traiter. Et vous l'avez vu dans la première table ronde organisée par Éthique en coproduction avec Web Radio Édition, les points de vue sont partagés. J'espère que ce sera le cas aussi pour cette table ronde, pour la réussite de cet échange. Je n'en doute pas, nous avons à notre panel François Gabellil, il est PDG de Coca-Cola Euro-Pacific Partners. François Gabellil, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Et c'est une difficulté. Je ne sais pas si je vais réussir à rester objective, car j'adore le Coca-Cola. Je continue, ça Merci. N'intéresse personne. Joseph Taillefer, secrétaire général de Plastalliance. Bienvenue, Joseph. Vous étiez tellement bon il y a quelques semaines. Vous revenez en deuxième semaine. C'est formidable. Vous êtes content ?
Très, très content.
Très bien. Eh bien, Arnaud Le Berrigo va-t-il réussir ce défi également ? Je n'en doute pas, parce qu'il est président d'ALB Expert PAC et on le voit, il sait communiquer. Ça se voit sur ses magnifiques réseaux sociaux. Arnaud Le Berrigo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue avec nous également Nicolas Furet, secrétaire général de Citeo. On a déjà parlé de vous dans la première table ronde, tellement Citeo est important. Nicolas Furet, bienvenue.
Merci.
Bonjour à vous. Alors, je parlais de Coca-Cola parce que, évidemment, en termes de matière, il y a de la matière, une consommation énorme. Et qu'est-ce que vous en faites ? Vous avez pris quelques dispositions. Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont vous appréhendez le sujet du recyclage, s'il vous plaît ?
Bon, alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que ce sujet du recyclage ou de l'économie circulaire, nous, on est ravis que ça soit maintenant, depuis quelques années, revenu un peu au centre du débat. On le voit avec la loi AGEC, avec le plan France 2030. Il y a beaucoup de discussions sur le sujet. On l'a vu aussi pendant la présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet, dans notre cas, de faire en sorte que les emballages que nous utilisons pour vendre nos produits, en fait, soient plus considéré comme un déchet, mais comme une ressource. Et donc ça, c'est, je pense, le gros débat, et on en a parlé, enfin, on l'a entendu dans le débat précédent. Et donc le recyclage, c'est important, mais pour moi, le recyclage, c'est uniquement un des maillons de la chaîne. Hein, on l'a déjà entendu. Il y a deux éléments sur le recyclage est important, mais avant, il faut qu'en amont, on arrive à collecter. Et aujourd'hui, on l'a entendu, les taux de collecte en fait en France sont extrêmement faibles. Hein. Sur le plastique, on est à 29%. Sur les bouteilles en plastique, on est à moins de 60%. Et après, on peut débattre sur la façon dont les taux sont calculés. Et donc, l'amont est extrêmement important. Et la loi, en fait, nous impose d'aller beaucoup plus loin, que ce soit l'Europe ou la France. Et nous, notre conviction sur l'amont, c'est qu'on a regardé un peu ce qui se faisait partout dans le monde. J'ai travaillé presque 20 ans à l'étranger. J'ai vu pas mal de systèmes différents. Et probablement, à part la Suisse, qui a ancré dans ses gènes un civisme écologique assez extraordinaire, les seuls pays dans lesquels il y a des taux de collecte importants, en tout cas pour nos types d'emballages, parce qu'on parle du plastique, mais c'est aussi le cas des canettes, c'est les systèmes de consigne. Consigne, où en fait la consigne, c'est rien d'autre que donner de la valeur à un emballage, et quand on le rapporte, on récupère la valeur. Donc ça permet d'en faire une ressource. Donc nous, on est convaincus que pour améliorer l'amont, la consigne dans notre industrie est probablement la meilleure des solutions. Puis après, il y a l'aval. C'est-à-dire, une fois qu'on a recyclé, qu'est-ce qu'on fait de cette matière recyclée ? Et là, on se trouve devant des problématiques un peu différentes, avec des injonctions souvent contradictoires des pouvoirs publics, puisqu'aujourd'hui, on nous dit, finalement, le plastique, c'est bien que vous le recyclez, il faut investir, il faut recycler, mais en 2030, il faudra que vous ayez 30% de moins, et puis en 2040, vous ne pourrez plus l'utiliser. Et donc là, c'est là où on se trouve dans des injonctions contradictoires, parce qu'aujourd'hui, notre conviction, c'est que la mère des batailles sur le climat, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Et aujourd'hui, le recyclage permet une réduction de l'empreinte carbone extrêmement forte. Dans notre industrie, 50%, en tout cas pour la France, pour Coca-Cola, 50% de l'empreinte carbone, elle vient des emballages. Et si on utilise des matières recyclées dans les emballages, on réduit pour une bouteille de 70% l'empreinte carbone, pour une canette de 90% si on réintègre 100% de matières recyclées. Et donc, il va falloir qu'on sorte de cette notion probablement de plastique à usage unique ou de matériaux à usage unique, puisque finalement, si on le réutilise, il n'est plus à usage unique. Et donc, il y a un débat qu'il va falloir avoir assez vite pour que les investisseurs aient de la visibilité. Et on l'a vu, hein, à Choose France, il y a eu des engagements qui ont été pris par des entreprises pour investir en France, pour créer des matières recyclées. Donc j'imagine, j'ose espérer qu'il y a eu des garanties qui ont été données pour que ces matières recyclées, ces centaines de millions d'investissements, puissent avoir des débouchés derrière. Et je voudrais clore juste cette intro en disant, bien sûr, le recyclage et l'économie circulaire est un élément important de la façon dont on pourra réduire l'empreinte carbone. Mais ce qu'il faudra aussi, et nous on y travaille depuis déjà 10 ans, c'est réduire les emballages, soit par la réduction de poids, soit sur aller des solutions de distribution de boissons sans emballage, avec des fontaines par exemple, ou enlever tous les emballages inutiles, les emballages autour des canettes, etc., les remplacer dès qu'on peut. Ça c'est important. Et le réemploi, un de vos invités en a parlé tout à l'heure, comment on accélère le réemploi et donc... C'est bien sûr revenir à des bouteilles comme on le fait aujourd'hui dans les cafés, hôtels, restaurants, comme on le fait dans d'autres pays où les bouteilles reviennent et elles sont réutilisées, lavées, réutilisées. Donc on travaille sur toutes ces dimensions.
Précision importante, je suis allée un petit peu vite, hein. Coca-Cola Euro-Pacific Partners, c'est l'embouteilleur des boissons gazeuses Coca-Cola. Vous allez dire mieux que moi, hein, vous, l'embouteilleur, il achète les sirops, il insère l'eau, le gaz, le sucre, il met en bouteille. Et donc, ce n'est pas du tout les Américains qui viennent nous donner des sons, parce que tout simplement, vous n'êtes pas Américain, si j'ai bien compris.
Non, en fait, nous sommes une entreprise à capitaux majoritairement européens, une famille espagnole. Nous avons la franchise de Coca-Cola pour une grande partie de l'Europe de l'Ouest et aussi une partie du Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie et beaucoup d'îles dans le Pacifique. Et effectivement, nous sommes le franchisé de la compagnie Coca-Cola à laquelle nous achetons les recettes et les produits que nous préparons ensuite. Et ensuite, nous les commercialisons. Nous les fabriquons, mais nous les commercialisons aussi. Et on essaye d'aller vers une économie circulaire. Ça va prendre du temps, mais avec toutes les bonnes volontés, je pense qu'on peut y arriver.
Ouais, et j'espère qu'un Coca-Cola nous attend à la sortie de cette émission en cette journée extrêmement chaude. Nicolas Furet, j'espère que vous n'êtes pas trop chaud. Vous êtes secrétaire général de Citeo, une entreprise à mission. Parce qu'on parle de recyclage, on le voit, il y a des finalités commerciales, économiques, sociétales. Mais pour vous, voilà, c'est carrément une mission sociétale.
Pour nous, Citeo, oui, et pour nos clients qui sont aussi nos actionnaires. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, nos clients, ce sont les entreprises de la grande consommation, comme Coca-Cola, mais aussi comme les entreprises qui distribuent les produits de Coca-Cola. Et le modèle de la responsabilité élargie du producteur en France a prévu que nos clients soient aussi nos actionnaires parce que c'est un moyen de les impliquer en termes d'engagement. Et c'est le choix qu'ont fait à la fois les industries, à la fois les politiques en 1992 quand ils ont décidé de créer cette responsabilité élargie du producteur. Et pourquoi je parle de nos actionnaires? Parce qu'on a modifié nos statuts pour devenir entreprise à mission et que ces nouveaux statuts ont été votés à l'unanimité de nos actionnaires en Assemblée Générale. Et donc, ça démontre l'engagement des entreprises derrière l'engagement sociétal de Citeo, qui porte en effet sur, non pas seulement le recyclage, mais M. Ghebelli l'a exprimé, le réemploi, la réduction, tous les moyens, en fait, de réduire l'empreinte environnementale de la consommation et de la consommation des produits des Français.
Peut-on tout recycler?
Alors, c'est le titre de votre émission, c'est intéressant.
Pas ça tout pose, à fait, mais
ça
c'est
pose
pour
plusieurs
le
questions. Déjà, ça pose la question du choix. Là, on dit, peut-on tout recycler? Mais si on regarde un petit peu le cadre réglementaire français et européen, on se dit même, doit-on tout recycler? Parce qu'on voit qu'il y a des obligations extrêmement fortes, des ambitions qui ont été portées à la fois par la France et par l'Europe et qui vont être portées. On a des débats qui vont arriver sur la révision de la directive emballage ménager à l'automne prochain, qui vont être très forts. On a eu la directive SUP dans les dernières années. On a eu la loi climat et résilience, la loi AGEC en France sur les 3 dernières années, qui pose des questions, en effet, et qui pousse des engagements, que ce soit en termes de réemploi, en termes de recyclage des matériaux plastiques et des recyclages des emballages en général. on l'a noté, il y a une petite contradiction aujourd'hui dans les lois avec des obligations de recyclage de 2030 extrêmement importantes, avec des obligations notamment de réintégration de matières recyclées dans les emballages, qui nécessitent des investissements parce qu'aujourd'hui tous les matériaux, notamment plastiques, mais pas seulement, n'ont pas forcément de filière industrielle de recyclage. Et bâtir ces filières de recyclage, ça demande quoi ? Ça demande à la fois de trouver les technologies pour recycler ces nouveaux matériaux et donc avoir en face aussi des entreprises qui font de l'éco-conception pour utiliser ces matériaux qui ont des solutions de recyclage. Et ça demande des investissements dans des filières de recyclage. Et il faut que ces filières, en plus, elles soient françaises et européennes. Si on parle tout à l'heure de l'empreinte environnementale, on doit recycler localement si on veut avoir cette empreinte environnementale la plus faible possible. Et donc aujourd'hui, on a besoin de donner de la visibilité aux industriels du recyclage si on veut qu'ils investissent dans des usines de recyclage au niveau français et européen. Et puis, il y a un sujet sur ce thème du recyclage local, il y a un enjeu de matière. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un enjeu d'émissions de CO2 si on envoie à l'autre bout du monde nos emballages et nos matériaux se faire recycler, mais aussi on a un enjeu de matière. Je crois que la crise ukrainienne et aussi la crise du Covid ont montré la nécessité pour nos pays de pouvoir disposer de matières premières, y compris recyclées, parce que la matière première, des fois issue du pétrole, elle vient à manquer en cas de crise où le transport, notamment, n'est pas aussi facile que d'habitude. Donc voilà, c'est des enjeux d'indépendance de notre industrie et de notre capacité à continuer à consommer dans des périodes de crise.
Alors j'aime bien... Oui, vous voulez ajouter quelque chose ?
Juste, revenir sur les différentes étapes, en effet, pour permettre ce recyclage. Je pense que c'est très important, M. Gabelli l'a dit. Il faut, la première étape, c'est qu'il faut un consommateur qui soit aussi un trieur. Et demain, sur le réemploi, qui est décidé de consommer des produits et des emballages réemployables. Parce que le geste de tri, le fait de consommer via des emballages réemployables, ça crée une contrainte vers le consommateur. Et donc, quand on se fixe des objectifs, il faut aussi donner les moyens aux trieurs et aux consommateurs d'adhérer en fait à ces objectifs. Il y a un enjeu donc de faciliter ce geste de tri et ce geste de consommation d'emballages réemployés. Et puis il y a un sujet ensuite de valeur. Et on le voit aujourd'hui, on a fait un chemin extrêmement important depuis 1992 sur ce geste de tri, mais qui est centré uniquement sur le geste citoyen et l'engagement du citoyen, l'engagement environnemental. Et le geste de tri, aujourd'hui, c'est le deuxième geste citoyen après le geste de vote. Vous voyez bien que le geste de vote, il est un peu chahuté.
C'est moins fréquent.
J'espère que le geste de tri sera plus préservé. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a atteint un taux, alors on a 80-90% des gens qui nous disent « je trie ». Mais on tombe à 50% de gens qui nous disent « je trie tous mes emballages et je les trie systématiquement ». Et peut-être que, vu la stagnation ou la faible progression de ce geste de tri sur les dernières années, peut-être qu'on a atteint un plafond de verre sur cet engagement ou cette capacité à motiver sur le seul engagement citoyen. Et en effet, il faut qu'on se pose la question, et nous on se la pose, des autres moyens de motiver le consommateur. Et les exemples qu'on voit en Europe autour de nous, oui, ils posent la question de la consigne, mais ils posent aussi la question de dispositifs comme la tarification incitative, où on voit que là aussi, il y a un enjeu de financier, hein, c'est faire baisser le coût de la collecte et du traitement des déchets pour le citoyen. Là aussi, ça apporte des éléments de performance. On voit par exemple 30%.
Je vais faire circuler la parole et puis bien vous sûr. Pourrez reparler, comme ça, ça Merci. Fera un débat encore plus intéressant, parce que vous avez la chance d'être à côté de quelqu'un, Arnaud Le Berrigaud, président d'ALB Expert Pack, qui est un professionnel de l'emballage. Et quand on écoute tout ce qui est dit depuis ce matin, on se rend compte qu'il y a des enjeux, il y a des contraintes, il y a des leçons de morale, il y a des injonctions. Et lui, Arnaud Le Berrigaud, il dit qu'il est passionné. Sa grande passion, c'est l'emballage. Donc, je peux vous dire qu'il a des choses à nous dire. J'aimerais savoir, Arnaud Le Berrigaud, sur ces questions de recyclage, de tri, quel est votre regard sur ce qui vient d'être dit ?
Bon, alors on a fini sur le tri, ça tombe bien, parce que c'est un de mes sujets, en fait, juste pour, avant de démarrer. On a deux activités. La première, c'est qu'on va travailler en amont. Alors moi, je pousse les industriels, alors surtout dans l'industrie agroalimentaire, parce que c'est un sujet que je connais très très bien depuis un peu plus de 20 ans. Donc je pousse les industriels, non pas à développer de nouveaux emballages, parce qu'il y en a déjà suffisamment, mais enfin à améliorer déjà les emballages qui existent. Donc ça, c'est une des premières choses. Alors, je les pousse dans leur réflexion, d'abord dans un premier temps. Ensuite, dans l'éco-conception, la production des emballages. Donc là, pour le coup, ce sont d'autres industriels. Et puis ensuite, les metteurs en marché qui, eux, vont faire le choix des emballages. Ça, c'est une première activité. La deuxième activité, qui est en fait très, très liée à la première, mais que je traite de façon différente, c'est de la formation aux gestes de tri. Alors, on commence par le consommateur. Donc en fait, on travaille avec Citeo, on travaille avec Paprec. On fait ce qu'on appelle des parcours pédagogiques, notamment dans les centres de tri. Hein. Donc on sait très très bien comment ça fonctionne au niveau du tri. Voilà. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire que, en fait, on veut pousser le consommateur chez lui, qui sait trier. Hein. D'ailleurs, je vais vous proposer un petit exercice qui va durer 2 minutes maximum et pas plus. En fait, on va essayer de le pousser à avoir le même comportement quand il sort de chez lui.
C'est-à-dire ?
Ben, je vais vous
faire
voir.
Montre-nous. Alors, démonstration, c'est pas Gérard Majax, c'est alors, Arnaud Le Bérigo, c'est beaucoup plus intéressant.
Ce que je vous propose, c'est que je vais vous poser un emballage ici, là. Je vais choisir une personne et je vais. En fait, la question que je vais vous poser, elle est simple. Hein. Alors, vous n'aurez pas le même emballage. J'ai pas forcément préparé les emballages, hein, donc avant. Donc là, ce sera pour Joseph. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites quand vous êtes chez vous et pourquoi?
J'aurais tendance à dire dans la poubelle jaune, emballage.
Et pour quelle raison?
Pour moi, enfin, la définition, c'est emballage, poubelle jaune. Voilà.
Ok.
On aura la réponse, la correction. Est-ce qu'on peut appeler un ami pour savoir quoi faire pendant ce jeu, sur ce quiz, Arnaud Le Bérigo?
Même question. Donc, je ne sais pas si on le voit, hein, c'est un gobelet.
On le voit.
Poubelle jaune. Enfin, bac jaune.
Bac jaune. Bac jaune, ça c'est bien.
C'est embêtant si vous êtes des très bons élèves. Hein, on va voir, on continue. Non. On continue.
Alors bon.
Alors celle-là, elle est pas alors, pour moi.
Oui, très honnêtement, on l'a choisi pour vous.
Oui, alors, je vais
dire. Alors vous êtes chez vous. Hein.
Je suis chez moi, oui. Bac jaune. Alors le seul truc, c'est que le bac jaune, là où il y a un bac jaune, parce qu'en fait, en France, on a encore des villes qui n'utilisent
chez
pas.
Vous, chez vous.
Chez moi, c'est le bac jaune.
Ok. En fait, on constate quoi? Que c'est simple. En fait, tout le monde n'arrête pas de dire le tri, c'est compliqué, etc. Moi, je vais vous dire un truc. Plus vous dites que c'est compliqué, moi, je vous dis un truc le soir avant de vous coucher, je vous le répète 1000 fois toute la nuit dans un casque, et le matin, vous vous levez, vous dites, bah oui, le tri, c'est compliqué. Bah non, le tri, c'est pas compliqué à la maison. Il y a des consignes qui sont, alors, qui peuvent être complexes, comme vous le dites, en fonction de l'endroit où vous habitez. Ça va changer, hein, à partir de 2023, hein, OK. Donc, c'est relativement simple. Ça, c'est pour la maison.
Alors,
maintenant.
Alors, et attention, deuxième séquence, on augmente le niveau. Vous êtes trop bons, les amis.
Non,
il passe au niveau 5.
Hors de la maison.
Allez, on se met dans les starting blocks.
Allez, on va commencer par vous.
Oh ouais, celle-là, elle est en plastique, non?
C'est plastique. Il a le droit de toucher? Est-ce qu'il a le droit de toucher selon les modalités?
Donc ça, chez moi?
Arnaud?
Chez moi, toujours? Ou en dehors?
Non, c'est au bureau. Au bureau.
Ah, au bureau.
Bah, il a le droit de la toucher, Arnaud?
Oui, il a le droit.
Au bureau, on n'en a pas parce qu'on a des produits équivalents qui sont très très bons.
D'accord.
Donc on n'en a pas au bureau, mais si jamais on en avait au bureau.
Oui, voilà.
Si vous faites parler des concurrents.
On a aussi dans le bureau la possibilité de le trier et de le mettre dans ce qui sera ensuite le bac jaune. On
d'accord,
a
ok. Emballage. Donc au bureau, vous êtes équipé.
Oui, on est équipé. Absolument.
Si vous faites parler des concurrents, c'est plus difficile.
C'est ça.
Même question au bureau.
Ça va être, si on a effectivement un bac jaune, hein, mais sinon...
Est-ce que vous avez
va.
Un bac jaune
En l'occurrence, on est censé avoir un bac jaune au niveau... On est censé avoir effectivement le tri, mais je sais par expérience que ce n'est pas le cas partout.
Ouais.
Pas le cas partout. Mais en ce qui nous concerne, à Place d'Alliance, on sépare effectivement, on a un tri séparé des déchets. Hein, on a un flux séparé pour effectivement ce genre de produit.
Je peux rajouter un élément?
Oui, bien sûr.
En fait, nous, on a éliminé les poubelles individuelles, où tout était mélangé, en fait. Hein, et on a des poubelles on a des points de collecte tous les 50 mètres à peu près au bureau, avec la possibilité d'être trié. Donc, ce qui évite que tout se remette dans une poubelle et ensuite, on ne peut pas trier.
Vous êtes sérieux, Arnaud, quand vous faites les jeux. Hein.
Normalement on a moins ça au bureau, sauf qu'on peut aller acheter de la nourriture en bas, au takeaway, et on a ça. Alors, qu'est-ce que vous en faites?
Je le mets au bac jaune, parce que chez Citeo aussi, on a des points de tri dans nos locaux où on sépare les emballages, les papiers et les
donc ça, bac
et
jaune.
La poubelle gaz. Ça, bac jaune.
Ouais. Ok. Alors, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que à la maison, c'est relativement facile. Par contre, dès qu'on aborde le point bureau, on peut avoir des points de blocage. Alors, je vous le fais là comme ça assez rapidement. Donc, effectivement, vous devriez avoir peut-être du tri sélectif. On a le sentiment que c'est pas le cas. Vous l'avez.
Il a dit
donc,
qu'il l'avait. Hein,
chez Citeo.
Si, si, attendez, c'est pas qu'il vous parle,
pardon,
spécialisé. Hein.
Si, on l'a, mais c'est pas le cas partout. C'est pas le cas.
Chez Citeo, vous l'avez.
Oui.
D'accord. Et en fait, il y a une particularité avec ce genre d'emballage qui arrive de plus en plus sur le marché, parce que moi, je vais surtout vous parler d'emballage, en fait, hein, qui arrive sur le marché, c'est que, en fait, on vous explique sur le bord qu'il faut séparer les éléments. Donc, en fait, si vous avez des bacs de tri suffisamment conséquents, en fait, vous allez séparer le plastique du carton. C'est le cas chez Citeo?
Oui.
Vous avez carton d'un côté et plastique de l'autre.
Ah non, on va séparer les emballages, on va les mettre dans le même bac, mais de manière séparée, ils ne sont pas imbriqués. Voilà.
D'accord, non, mais là, c'est un seul emballage, en fait, avec, vous pouvez retirer la ceinture carton. Il est prévu comme ça, c'est écrit sur le côté.
Oui.
D'accord, okay. Très bonne promotion, Arnaud Le Berrigo, de votre travail.
On ne mettra pas le plastique dans le carton, on va séparer les deux et on les mettra dans le bac jaune.
Ok. Donc nous, on va faire de la formation, en fait, on va aller rencontrer les entreprises. Alors, on commence par les très grosses entreprises, pour une raison simple, c'est parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, en fait. Et on va aller leur proposer de la formation. En fait, on va leur expliquer qu'en tant que consommateur, ils savent faire, il n'y a aucun problème, mais qu'au bureau, on a également énormément alors, d'emballages ou enfin de déchets de bureau, etc. Et que là, il faut également les trier. On va même leur proposer, alors je vous parlais tout à l'heure de parcours pédagogiques dans les centres de tri, mais on va même leur proposer de faire des mini parcours pédagogiques dans leurs locaux, par exemple chez vous, puisque vous avez des poubelles qui sont à certains endroits. Voilà.
Alors, on avance le débat. Merci pour ce jeu. C'était à chaque fois, on fera un jeu comme ça. Et il y en a qui remporte la palme. C'est Joseph Taïfé qui a très, très bien répondu. Bravo, le secrétaire général de Plastalliance. Et par contre, vous mettez une note. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure note. À Emmanuel Macron, Joseph Taïfé, parce que c'est vrai, il nous a dit que le « en même temps », c'était le grand credo. Et ben dans ce domaine-là, quand on veut recycler, incorporer plus de plastique recyclé et réduire le gisement, le « en même temps », je ne suis pas sûre que ça marche. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous voulez bien.
Alors déjà, je veux remercier Sophie de Menton, qui a organisé le colloque d'aujourd'hui, parce qu'on dit que la France, c'est un peu le pays des 30 000 clochers, mais je peux vous dire que dans la partie économie circulaire et plastique et déchets, c'est un peu le pays des chapelles.
Bah, j'aimerais qu'on me dise combien il y a de poubelles. Je croyais que vous alliez dire la France des 60 millions de poubelles, mais je vous laisse poursuivre.
Non, mais je vais y venir, parce que je peux vous assurer que dans le colloque d'aujourd'hui, nous avons des entreprises, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. Je peux vous dire, il y en a qui sont pour la consigne, on a entendu François à côté, il y en a d'autres qui sont contre la consigne. Vous en allez avoir qui vont être pour la valorisation énergétique.
Alors justement,
d'autres qui
on va
sont
le
contre.
Faire ce débat.
Je veux dire, c'est un point important et on arrive à ce que vous disiez par rapport. Alors, c'est pas Emmanuel Macron, je vais pas jeter la pierre, on va dire à une personne en particulier, mais disons que je pense qu'il y a eu une erreur, on va dire stratégique, qui a été menée avec la loi, enfin, on appelle la loi Abject ou la loi AGEC, comme on veut. Parce que pourquoi? Parce que on a parlé de la partie internationale. Moi, effectivement, mon intervention aujourd'hui. C'est de rappeler, François a parlé effectivement que l'économie circulaire, ça fait quelques années qu'on est dessus, mais c'est l'Europe qui a commencé. C'est l'Europe qui est à la base d'avoir lancé la prise de conscience qu'il fallait effectivement faire quelque chose. La directive, la fameuse directive plastique à usage unique, SUP, dont vous avez parlé, c'est l'Europe qui l'a menée, qui a donné une base de travail, qui a créé d'ailleurs une alliance, l'Alliance circulaire pour les plastiques d'ailleurs, donc Plastalliance et Coca-Cola et même Citeo d'ailleurs, vous êtes membre, dans lequel, en fin de compte, l'objectif, c'est de recycler plus. C'est-à-dire, il y a un constat qui est fait, c'est-à-dire, et je pense que même dans la première table ronde, on l'a entendu, il y a effectivement très peu de plastiques en France qui sont au niveau des emballages qui sont recyclés, 28%, 27%. On est avant-dernier européen depuis des années, il y a quand même un problème. C'est quand même terrible de voir qu'effectivement il y a d'autres pays, même des pays de l'Est, la République tchèque qui recycle plus de 50%. Donc à un moment donné, il y a l'Europe qui a mis en place des structures. Et la France, voilà, c'est ce que vous avez dit, le en même temps, c'est on va plus recycler, mais d'un autre côté, on va réduire le gisement. Donc ça, c'est problématique, parce qu'aujourd'hui, et ça a été rappelé, pour pouvoir faire des usines de recyclage, pour investir même dans des usines de fabrication d'emballage, il faut des perspectives. C'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà, j'ai, que ce soit du recyclage mécanique ou recyclage chimique d'ailleurs, parce qu'il y a d'énormes investissements qui sont faits actuellement par des grands acteurs sur le sujet. Il faut de la perspective. Dès lors qu'à un moment donné, on est en train de vous dire, on ne sait pas trop si on va aller vers une interdiction finale des plastiques à usage unique, mais que d'un autre côté, on vous demande quand même de recycler plus, on est dans une grosse, ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Et là, aujourd'hui, ben, la France, effectivement, est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que, je le dis clairement, j'espère que le futur quinquennat qui va arriver va être vraiment une mise à niveau de cette fameuse loi AGEC, qui n'est pas mauvaise dans l'ensemble, on va dire, de ces termes. Il y a des choses qui sont intéressantes. Mais sur la partie, on va dire, plastique, avoir mis un objectif qui est irréalisable, c'est-à-dire 100% des plastiques recyclés en 2025. Nous, dès 2019, on avait déjà dit que c'était une impossibilité. Et de l'autre côté, de dire qu'en 2040, on va arrêter les plastiques à usage unique, c'est également une impossibilité. Et je crois que dans la première table ronde, le président de Météor l'avait dit, il y aura toujours des déchets. On ne pourra pas s'en passer. Maintenant, aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment les traiter.
Et puis, c'est intéressant de mettre les choses en perspective. On n'est pas tout seul. On travaille à l'échelle internationale. Et ça peut nous inspirer. Vous regardez ce qui se fait au niveau européen. Vous pouvez nous parler de la contextualisation de cette action au niveau européen et international.
Je prends l'exemple. Alors, François avait parlé de la consigne. Prenons l'exemple d'un touriste allemand qui va traverser la frontière française. En Allemagne, ils ont la consigne depuis des années.
Exactement.
Plus de 30 ans, ils ont la consigne. Il y a même je vous invite à voir des vidéos sur Facebook dans lesquelles vous mettez une bouteille en plastique, une bouteille d'eau dans la nature, enfin, en tous les cas, dans la rue. Je peux vous dire qu'elle restera pas longtemps, on va dire, comme ça, et quelqu'un va la ramener pour récupérer la somme. Cette personne-là, si elle vient en France, déjà, imaginons qu'elle a acheté des bouteilles d'eau ou des bouteilles de coca ou d'autres choses. Elle aura l'habitude de se dire, mais j'ai peut-être un endroit pour déconsigner. Bon, il n'y en a pas partout. Alors, on sait qu'il y a des acteurs, on a vu Lemon Tree ou d'autres, mais ce sont des initiatives privées, on va dire, assez quand même isolées. Mais globalement, on n'a pas d'endroit pour déconsigner. Donc, il va se dire, qu'est-ce que j'en fais? Il va être chez lui, où il va faire du Airbnb, il va y avoir, on va dire, un bac jaune ou des bacs gris, etc. On n'a pas les mêmes consignes au niveau français. Déjà, même en France, on n'a pas forcément les mêmes règles de région à région et de département à département. Je n'en parle même pas au niveau européen. Et là, aujourd'hui, on lance, et c'est quelque chose, hein, en tous les cas, nous, au niveau Plastalliance, on en a déjà parlé lors de différentes réunions de l'Alliance circulaire pour les plastiques, c'est que aujourd'hui effectivement c'est bien l'Europe a uniformisé les chargeurs pour les téléphones, c'est magnifique, c'est très bien, hein, c'est pas une mauvaise chose, mais à notre sens, s'il y a bien un point sur lequel elle doit intervenir et mettre en place une standardisation, c'est la gestion des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la question de la consigne, c'est même pas quelque chose à notre sens qui peut être traité au niveau français, on va dire, parce que ça va créer toujours des combats d'arrière-garde, ou comme on l'a dit, de chapelle ce sujet, il faut, on va dire, à notre sens, une consigne européenne. Il faudrait des règles de tri européens. Aujourd'hui, on a la libre circulation des biens et des personnes. Les déchets aussi, ils circulent. Les gens qui partent faire du camping, qui traversent les Pays-Bas pour venir en France, ils ont dans leur sac des emballages. Ils doivent savoir qu'ils auront les mêmes règles de gestion de leurs déchets que dans leur propre pays. Et à notre sens, alors que bon, l'UE a pris beaucoup d'initiatives sur la santé à l'époque pour le Covid ou pour d'autres choses, sur la question des déchets, sur la question du tri, à notre sens, c'est un enjeu majeur sur lesquels elle devrait justement demander une standardisation. Alors, les travaux qui sont actuellement faits au niveau de l'Alliance circulaire pour les plastiques vont un peu dans ce sens, mais on est quand même beaucoup dans le volontariat. C'est-à-dire quand même, l'Europe compte aussi sur la maturité des différents pays qui arrivent à travailler quand même de manière assez intéressante. C'est un peu à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment parfois des acteurs qui peuvent ne pas forcément avoir toujours les mêmes intérêts, mais qui ont en fin de compte un but qui est similaire. Et au niveau européen, c'est ça. Moi, je peux vous dire que dans les réunions qu'on a, on a des pays différents qui ont des intérêts différents, parfois qui peuvent être en concurrence au niveau des produits, mais tout le monde travaille pour trouver, on va dire, un chemin vers une économie circulaire et pour arriver à ce qu'on appelle aux 10 millions de tonnes d'ailleurs d'utilisation de matières recyclées en 2025. C'est l'objectif au niveau européen qui est fixé.
François Gay-Bellil, je rappelle, vous êtes PDG de Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Quand on parle de consigne, pour vous, c'est une piste vraiment importante de déploiement?
Je pense que moi, j'aime pas qu'on soit les derniers de la classe. C'est-à-dire que quand j'entends que la France est avant-dernier en Europe sur la collecte, ça me fait de la peine pour notre pays, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit plus mauvais que les autres. Et ma conviction, c'est que quand on est le plus mauvais de la classe, on va voir ce que font les meilleurs de la classe, et puis on essaye de prendre les bonnes idées et de les utiliser. On a un peu, alors j'ai habité 20 ans à l'étranger, donc je suis probablement un peu biaisé, mais en revenant, je me dis, on a toujours l'impression qu'on va inventer, on va réinventer la roue, et qu'on est plus intelligent, et on va trouver de meilleures solutions. Et il y a beaucoup de gens extrêmement intelligents dans tous les pays nordiques, en Allemagne, en Hollande, etc., qui ont trouvé des solutions qui fonctionnent. Et les sauts de performance avec la consigne sont considérables. Beaucoup des pays qui sont passés à la consigne sont passés de 60-65% de collecte à 95% de collecte sur les emballages, en tout cas sur les emballages de nos produits. Et donc, moi, je suis convaincu qu'il faut prendre les bonnes idées, parce que de changer notre civisme collectif, ça va prendre des générations. Je parlais des Suisses tout à l'heure, les Suisses, ça a pris des générations. Et j'aime beaucoup ce que vous dites aussi sur la consigne, c'est que pour moi, la consigne, elle permet pas seulement d'avoir une meilleure, plus de ressources pour le recyclage, mais quelque part, elle règle aussi le problème des déchets sauvages. C'est-à-dire que les déchets sauvages, effectivement, en Allemagne, on n'en trouve pas beaucoup parce que ça a de la valeur. Et donc, la personne qui veut aller récupérer 15 ou 20 centimes parce qu'il a trouvé une bouteille, il sait où il a la déconsigner, il va la récupérer. Ça permet aussi de régler, d'avancer, pas de régler, mais d'avancer le sujet de la décarbonation de notre économie. Donc, il y a plein de sujets que ça permet de régler. On a une arme pour régler plusieurs sujets. Donc, moi, je pense que c'est assez fondamental. Maintenant, quand ça avait été discuté à l'époque de la loi AGEC, probablement il n'y a pas eu assez de concertation avec toutes les personnes que ça pourrait impliquer, les municipalités, les collecteurs, l'industrie, où va la matière, les distributeurs. Et donc il faut qu'on fasse un meilleur travail, je pense, tous ensemble, parce que c'est notre intelligence collective qui nous permettra de trouver des solutions. Et donc il faut qu'on travaille avec Citeo en particulier, qui est connecté avec tout le monde, pour voir quelle est la meilleure façon de la mettre en œuvre pour que ça ne pénalise personne.
Concrètement, comment ça va se passer dans votre cas, si la consigne se développe, où est-ce qu'on va effectivement restituer la bouteille, la canette? C'est dans les supermarchés? Il y a des étapes à venir? Vous avez un calendrier ou...
En fait, moi, je suis pas... Nous, on représente une partie des emballages. C'est pas moi qui vais faire en sorte la consigne, elle va être créée par un collectif. Encore une fois, les industriels, les distributeurs, les municipalités, les collecteurs. Comment ça se fait dans d'autres pays? C'est assez simple. Vous allez en Allemagne aujourd'hui, vous avez deux types de consignes. Vous avez une consigne pour recyclage, donc il y a certains emballages où vous le rapportez, on vous rembourse ce que vous aviez payé, donc c'est l'incitation, et votre bouteille ou votre canette repart dans le circuit et recyclée et réintégrée dans les emballages. Et puis vous avez aussi la consigne pour réemploi en Allemagne, qui est quelque chose aujourd'hui, on ne discute pas forcément beaucoup de ça en France pour la consommation à domicile, on l'a aujourd'hui dans la consommation hors domicile, hein, dans les cafés par exemple, nos bouteilles en verre sont consignées pour réemploi quelque part. Et ensuite, les points de déconsignation, il y en a partout, encore une fois, en Allemagne ou en Suède, il y en a un petit peu partout, donc c'est assez facile d'en trouver, bien sûr dans les supermarchés, mais pas seulement, dans les endroits publics. Un des problèmes en France aujourd'hui, il y a des régions qui collectent et qui trient remarquablement bien. La Bretagne, l'Alsace, les taux de tri sont remarquables, on est probablement à 80-85%, mais certaines grandes villes comme Paris ou Marseille, on est à 10%. De collecte. Et moi, je me suis baladé encore ce week-end. On voit qu'il y a des endroits, il y a une petite poubelle, alors qu'on a des centaines et des milliers de touristes. Bah, la poubelle, à midi, elle déborde.
Bah, ouais.
Et donc, on n'a pas les infrastructures aujourd'hui, même pour collecter. Donc, on a beaucoup de travail à faire, je pense.
Il en faut plus à différents endroits.
Il en faut plus. Et puis, avec des possibilités de tri. Il y a beaucoup de poubelles aujourd'hui où il n'y a pas de possibilité de tri dans Paris. Hein.
On relance le débat, la taxe Citeo. Hein. Je me suis laissé dire que ces taxes ont augmenté de près de 300%, alors que de 2000 à 2020, sur la même période, la collecte a augmenté de 36%. Sur les taxes, on est pionniers là, non? En France, on disait mauvais élève.
Si je peux juste
Je vais vous donner la
parole. Ce n'est pas une taxe, c'est une contribution. C'est important dans le.
Oui, j'allais vous donner la parole après, mais je voulais d'abord avoir
ce principe de la responsabilité des producteurs, je pense, qui a été mis en place il y a maintenant quelques décennies, 30 ans. Bien sûr, ça coûte aujourd'hui un peu plus cher, mais c'est un peu normal. Le début, c'est facile. Et on l'a dit tout à l'heure, on est presque un peu à un plafond de verre. Et donc, chaque pourcentage aujourd'hui, avec le système tel qu'il est aujourd'hui, aller chercher 1% de plus, c'est beaucoup plus cher. Je pense que c'est pour ça que je suis convaincu qu'on est à un plafond de verre et qu'il faut faire évoluer le modèle. Les gens n'aiment pas quand je dis qu'il faut changer le modèle, mais il faut faire évoluer le modèle parce qu'on n'arrivera pas aujourd'hui aux objectifs qui nous ont été fixés par la loi avec le modèle
un existant. Plafond de verre avec du verre recyclable, bien sûr. Je vous donne la parole, Citéo, puisque je vous ai interpellé. Est-ce que vous pouvez, Nicolas Furet, nous rappeler votre position là-dessus?
Sur le...
ces taxes qui augmentent de contribution, comme vous les appelez, beaucoup plus vite que la collecte. Et donc, les entreprises veulent bien faire, mais elles tirent la langue.
Sur le sujet de la collecte, je voudrais juste préciser une chose. On partage le fort niveau d'ambition. Et l'ambition exprimée à la fois par nos clients, à la fois par le cadre réglementaire dont je parlais tout à l'heure en France et en Europe, qui est extrêmement ambitieux, il concerne la totalité des emballages. Et donc, il est important qu'on mette autour de la table tous les acteurs, industriels, distributeurs, en effet, collectivités locales, pour trouver les dispositifs, parce qu'il n'y aura pas un seul dispositif. La consigne est un dispositif, ça n'est pas le seul. Et il faudra qu'on ait de multiples dispositifs qui répondent aux enjeux de tous les emballages et de tous les territoires. Et donc ça, c'est important, c'est qu'on est en train de passer d'une ère d'un dispositif qui s'appelait, si je le réduis, le bac jaune, à une multiplicité de dispositifs. On voit qu'à côté du recyclage, on aura le réemploi aussi, la réduction des emballages en passant par la disparition des emballages qui ne sont pas indispensables. D'autres modes de consommation, voilà. C'est une multiplicité de solutions pour nous amener à l'atteinte des objectifs. Sur le niveau des contributions, je pense que c'est important de rappeler ici qu'il évolue en effet, d'une part, parce que plus on va aller chercher de tonnes, et c'est le modèle qui est construit comme ça, plus on va aller recycler de tonnes. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a un tarif aujourd'hui des soutiens qui sont versés aux collectivités locales qui les motivent à aller chercher pour recycler de plus en plus de tonnes. Et plus les collectivités et les opérateurs vont collecter des tonnes et les recycler, plus elles vont toucher des soutiens. Et ces soutiens, ils sont financés par les entreprises. Et c'est ces contributions qui sont appelées auprès des entreprises par Citéo pour financer les tonnes recyclées. Par ailleurs, ce n'est pas la seule explication sur l'augmentation des contributions. C'est aussi le niveau et la typologie des ambitions et des responsabilités qui sont mises à la charge des entreprises. La loi AGEC, elle est venue prévoir une responsabilité des entreprises sur le financement des déchets abandonnés dont on parlait tout à l'heure. Elle est venue augmenter les ambitions aussi sur la collecte. Et tout ça implique en fait un niveau de contribution qui augmente année après année. Je voudrais dire que les tonnages recyclés ont été en permanence en augmentation depuis le nombre d'années, ce qui explique aussi cette augmentation des contributions, je le disais. Mais le taux de recyclage, on peut estimer qu'il n'a pas été, qu'il n'a pas progressé suffisamment vite. On parlait du taux de recyclage des emballages en plastique en particulier. On a un programme qui va se terminer à la fin de l'année 2023, qui va permettre à tous les Français de mettre tous les emballages dans le bac jaune. C'est un sujet de simplification, c'est un sujet de massification aussi des emballages pour créer ces nouvelles filières sur le plastique. Jusqu'à récemment, on ne mettait dans le bac jaune que les bouteilles et flacons en plastique pour le sujet matériaux au plastique. Là maintenant, c'est ouvert à tous les emballages, on l'a vu tout à l'heure, du pot de yaourt aux emballages en PET clair. Et donc ça aussi, ça sera un moyen de faire augmenter le geste de tri, de le faciliter et d'aller capter ces nouveaux plastiques et donc de monter ces filières de recyclage.
Alors Arnaud Le Birigo, je me tourne vers vous. C'est des sujets où parfois certains lancent une phrase comme ça pour simplifier, mais il faut se méfier des idées reçues. Ceux qui disent l'emballage carton, ça va régler tous les plans. Hein. J'ai vu énormément de reportages en ce moment sur les tomates, il faut enlever tous les plastiques, le carton. Comme si c'était la panacée. Est-ce que l'emballage carton va régler tous les problèmes? Quel est votre point de vue, vous qui êtes un grand spécialiste de l'emballage?
Alors, moi, je vais revenir sur...
vous pouvez juste répondre un tout petit peu à ma question, ce serait très gentil. Et ensuite, on va sur toutes les
aujourd'hui, pistes. Aujourd'hui, quand on regarde les volumes du carton en France, qui augmente et qui, dans le cadre du e-commerce, vont continuer encore à augmenter, je suis pas convaincu que ça va régler grand chose. Aujourd'hui, on se retrouve avec encore plus de volume de carton et si on regarde où partent les cartons pour se faire recycler, enfin ça sort de France quoi, donc clairement ouais. Donc moi je considère que ça c'est quand même une vraie question à se poser. Ouais. Je reviens sur AGEC parce que j'ai alors là pour le coup dans ma première activité, c'est-à-dire que quand j'accompagne des entreprises sur l'amélioration de leurs emballages, on commence toujours par revenir sur AGEC. AGEC, alors OK, il y a des choses bien intérieures, il y a d'autres choses qui peuvent être discutables, etc. AGEC, ce qui est super important, c'est de bien comprendre. Et il faut vraiment passer du temps à bien comprendre AGEC. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde est entré dans un espèce de tube, c'est les 3 R. Réduction des emballages en plastique à usage unique, réemploi quand c'est possible, et améliorer le recyclage. Et tout le monde va là-dedans, uniquement là-dedans. Moi, je dis à mes clients, une bonne solution pour faire face à AGEC, c'est vous faites un pas de côté, vous prenez du recul. Et on regarde la situation dans son ensemble.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je prends uniquement le cas de la réduction. En fait, vous avez des gens qui comprennent AGEC de deux façons différentes concernant la réduction du plastique. Il y en a qui vous disent, on a une unité de vente consommateur, donc on a un emballage en plastique, on va réduire le poids de cet emballage en plastique, et donc c'est une réduction, c'est du AGEC, c'est bien. Et puis vous en avez l'autre qui vous disent, on va supprimer l'emballage en plastique et on va le remplacer, et là je reviens sur ce que vous disiez, sur du carton. Sauf que quand vous regardez dans l'industrie agroalimentaire, en tout cas une grosse partie des produits qui sont conditionnés, ils sont ou humides ou liquides, et on ne peut pas mettre ces produits-là en contact direct avec du carton. Alors, qu'est-ce que font certains, et de plus en plus? Alors moi, j'essaie de freiner, hein, enfin sur les réseaux, on en parlait tout à l'heure au niveau de la communication. Alors des fois, ça pique, hein, moi j'essaie d'y aller toujours avec bienveillance et rester positif en reposant des questions, etc. Mais bon, des fois, ça pique. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On remplace des emballages en plastique, monomatériaux qui ont une filière de recyclage et qui fonctionnent. On les remplace par des emballages, par exemple, mixtes. C'est-à-dire, vous avez un craft ou un carton à l'extérieur, et à l'intérieur, forcément, bah, vous avez une pellicule en plastique. Qu'est-ce qui se passe ensuite au niveau du recyclage? Quand ça arrive dans les centres de tri, en fonction du sens dans lequel va arriver l'emballage, un coup, il va être reconnu comme du carton, bah, il va aller chez les recycleurs de carton, ça va aller dans un pulpeur, on va réussir à récupérer 80-90% de la pulpe, ce qui est quand même bien. Et puis, il va vous rester le plastique qui est à l'intérieur, en général, c'est un polyéthylène, qui lui, assez souvent, va être enfoui. Alors, parfois incinéré, mais le plus souvent, c'est enfoui. Si il est détecté de l'autre côté comme étant du plastique, il va arriver chez le recycleur de plastique. Mais lui, il n'est pas recycleur de carton. Donc, en fait, il va évacuer l'emballage. En fait, quand on fait ce genre de choix, faut vraiment réfléchir jusqu'au bout. Et pour le coup, c'est de l'éco-conception. Moi, je suis pas contre le fait qu'on utilise ce genre d'emballage, mais il faut qu'on réfléchisse jusqu'au bout au fait de pouvoir le refermer pour que dans le centre de tri, il soit identifié comme étant ce qu'il est normalement, c'est-à-dire du craft. Je précise une chose également. Et je reviens sur la loi, et je le précise également à mes clients. Dans la loi SUP, et je ne sais plus si dans AGEC ça a été repris au niveau de la définition de ce que c'est qu'un emballage plastique, eh ben, un emballage, à partir du moment où il y a du plastique, c'est du plastique. Si vous avez 1% de plastique, ben c'est un emballage en plastique. Voilà. Et je lutte également contre les allégations qui sont trompeuses sur les sachets, qui pourraient conduire le consommateur à faire un choix qui est finalement, quand on regarde, pire que ce qui a été dénoncé. Cela dit, le consommateur, ce qui fait son choix quand il fait ses courses en premier, c'est le prix.
Joseph Taïfé, je vous voyais écouter attentivement. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous vos réflexions là-dessus?
Alors, les réflexions sur le sujet, c'est vrai que la loi AGEC, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, mais c'est vrai que pour nous, et on le dit toujours, notre boussole, ce n'est pas la loi AGEC, c'est ce qui se passe au niveau européen. C'est-à-dire que si la loi AGEC ou des dispositions des lois françaises se vont dans la ligne de ce que l'Europe a prévu, nous, ça ne nous pose pas de souci. Là où ça commence effectivement à être problématique, c'est quand effectivement la loi nationale, on va dire, est différente et crée même une distorsion de concurrence, même d'ailleurs avec d'autres pays qui n'ont pas appliqué, on va dire, la même réglementation. Mais vous avez parlé de la contribution Citeo, mais c'est pas ça. Enfin, je veux dire, il y a une autre taxe, moi, qui nous choque le plus. C'est les 1,2 milliard d'euros que la France est obligée de verser tous les ans parce que, justement, on ne recycle pas les emballages plastiques. Alors ça, c'est une taxe. Effectivement, c'est l'Europe qui l'a mis en place. Mais on en parlait tout à l'heure lors du débat que vous avez eu. J'ai écouté les premiers extraits de la première table ronde. C'est qu'effectivement, on met des taxes pour parfois pousser au changement. Sauf que vous avez les autres pays qui ont compris que leur intérêt c'était de recycler le maximum d'emballages pour payer le moins de taxes possible. La France, vu les prévisions budgétaires qui sont faites, on n'a pas l'impression que les 1,2 million d'euros vont bouger d'année en année. 1,2 milliard, ce qui représente d'ailleurs sur 6 milliards d'euros d'ailleurs de contributions sur cette taxe au niveau européen. Donc c'est dire la part que la France paye. Et aujourd'hui, la France a les moyens de faire baisser cette taxe, c'est effectivement d'augmenter cette collecte. Donc la collecte, alors la consigne, nous on est très clair, c'est un moyen. Alors on disait de faire évoluer le modèle, moi je dirais plutôt de compléter le modèle. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est un outil en plus qui va venir. La consigne, ce ne sera pas non plus la panacée, mais c'est un élément parmi d'autres. L'extension des consignes de tri, c'est également un élément parmi d'autres. Tout ça concourt, on va dire, à arriver à mieux collecter. Mais la collecte, on va dire, c'est une chose, on peut collecter beaucoup, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Donc, et à un moment donné, les consommateurs aussi se rendent compte aujourd'hui que tout ce qui est mis, on va dire, dans le bac jaune, ne finit pas non plus recyclé. Donc à un moment donné, il faut effectivement travailler sur ce sujet-là. Et à notre sens, on le redit, c'est travailler au niveau européen. C'est-à-dire qu'au niveau français, on a commencé à discuter de définition de recyclabilité, de qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui n'est pas recyclable, etc. Nous, à notre sens, c'est au niveau européen que ça doit se passer. Je veux dire, à un moment donné, on est dans une équipe. Et pourtant, le gouvernement actuel, Emmanuel Macron est quand même quelqu'un de très pro-européen sur l'ensemble de sa politique. Mais sur cet élément-là, j'ai envie de dire, on fait vraiment un peu cavalier seul. C'est vraiment, on essaye d'être alors les meilleurs ou les plus mauvais de la classe, ça dépend dans quel sens on se met. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se mette d'accord avec nos partenaires, les autres pays, les autres industriels des autres secteurs pour trouver quelque chose qui puisse être harmonisé. Sinon, on va se retrouver... On a des entreprises étrangères implantées en France. Elles ne vont pas appliquer des règles différentes en Allemagne, alors que quand elles sont en France, ça va être encore une autre règle. Le but de l'Union européenne, c'est d'avoir justement une harmonisation. Et en matière de tri et de gestion des déchets, c'est la clé.
Coca-Cola travaille bien sûr à l'échelle européenne. Est-ce que vous pouvez nous réagir, François Gabelli, s'il vous plaît ?
Nous, on est convaincus qu'il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, aller chercher les bonnes idées, essayer de mettre les bonnes idées partout. Il y a d'autres pays européens qui envisagent la mise en place de la consigne. Hein. L'Écosse, qui n'est pas un pays, mais envisage la mise en place de la consigne. L'Angleterre le regarde pour essayer de le faire en même temps. Donc, il y a beaucoup de pays le regardent. Ce que je voudrais dire peut-être sur la consigne, parce qu'on a beaucoup été critiqués quand on avait soutenu le projet de consigne à l'époque, en disant, mais pourquoi faire quelque chose de différent pour les boissons ? Pourquoi un flux différent en fait pour les boissons ? Et en fait, il y a vraiment deux raisons principales. Un, c'est que dans la loi, les boissons sont censées incorporer, collecter 77% des bouteilles d'ici 2025, on en est loin aujourd'hui, et 90% d'ici 2030. On ne voit pas aujourd'hui de solution pour y arriver. Ça, c'est la première raison pour laquelle on pense qu'il faut avoir une ségrégation des emballages de boissons. Le deuxième, c'est que on est quand même au contact de l'alimentaire, on le disait tout à l'heure, de produits alimentaires qu'on ingère. Et donc, c'est super important de pouvoir avoir un gisement de matière qui soit propre à l'alimentaire. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses dans le bac jaune. On trouve des encres qui sont pas forcément compatibles avec l'alimentaire. On trouve des emballages de produits ménagers. On trouve de produits parfois dangereux. Donc, on essaye d'avoir de la ségrégation pour pouvoir arriver à des solutions où nos emballages sont 100% en matière recyclée. Et on parlait tout à l'heure d'indépendance. Nous, quand on a commencé à faire un certain nombre d'emballages en 100% plastique recyclé, par exemple, on vient de passer toute notre petite bouteille nomade en 100% plastique recyclé, on était au début obligé de s'approvisionner à l'étranger. C'est un non-sens complet, mais c'était la seule solution pour avoir du plastique recyclé de qualité alimentaire qui répond aux normes de santé du pays. Et donc, je pense qu'il y a tout un progrès à faire. Donc, moi, je suis favorable à ce qui marche bien, l'importer, l'appliquer. C'est pas si compliqué, c'est pas simple, mais c'est pas si compliqué. Si d'autres y sont arrivés, je suis convaincu qu'on peut y arriver.
Est-ce que Arnaud Le Berrigaud, vous pouvez réagir à ça ? On parle bien sûr de recyclage, tri, qu'est-ce qu'il faut faire des déchets, mais est-ce que les producteurs, les entreprises ont conscience que le meilleur déchet, c'est quand il n'existe pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'en amont, il y a vraiment cette réflexion, vous sentez dans les entreprises, est-ce que c'est ça sur lequel il faut travailler pour que dès la conception d'un produit quel qu'il soit, on ait déjà intégré cette dimension, qu'est-ce qu'on va en faire après ?
Alors, très honnêtement, ils en ont conscience. Après, c'est qu'est-ce qu'ils font ? Alors moi, je vous donne mon sentiment vu de l'extérieur, en fait. J'ai scindé ça en trois. Vous avez les très grosses entreprises, comme je le disais tout à l'heure, qui investissent effectivement dans des changements, d'abord parce qu'elles ont peut-être plus d'argent que les autres et peut-être plus d'intérêt. Mais moi, je suis super content qu'elles investissent parce que c'est ça qui tire le reste. Vous avez les startups, ils ont ça dans le sang. Donc ça fait partie de leur gène. Alors eux, ils sont un peu plus timides parce qu'ils ont moins de moyens, etc. Mais enfin, ils cherchent quand même des solutions. Au milieu, vous avez ce que j'appelle le ventre mou. Vous avez, donc c'est des PME et grosses PME qui savent tout ça. Alors, ils ont besoin effectivement d'accompagnement pour comprendre AGEC, mais ils savent tout ça. Sauf que ça demande des investissements énormes. Tout à l'heure, on parlait, enfin dans la première table ronde, on parlait justement de l'industrie, etc. Les gens, ils ont l'impression, je ne parle pas des consommateurs, parce que je ne suis même pas convaincu que le consommateur soit vraiment dans cette histoire d'emballage, enfin voilà, etc.
Ouais, de mais, plus en plus quand même. De plus en plus.
Alors, non, non, mais de plus en plus, mais ça reste, j'ai envie de dire, presque anecdotique. Enfin voilà, ça, c'est mon point de vue en tout cas. Ouais. Mais je parle des ONG. Qui poussent énormément, par exemple, en disant il faut arrêter le plastique, absolument, etc. Mais en fait, les choses se font pas comme ça en claquant des doigts, quoi. En industrie, notamment, quand vous voulez changer d'emballage, c'est super complexe. Je vais vous donner un exemple. Et je peux les citer parce que je les ai cités sur LinkedIn cette semaine et ça s'est plutôt bien passé. Il y a une marque de pâtes, Lustucru, qui, en lançant une nouvelle gamme, est partie sur un sachet 100% papier. Moi, j'ai voulu savoir si c'était un 100% papier ou s'il y avait une pellicule de plastique à l'intérieur. Je n'ai pas trouvé en magasin les produits. Je les ai appelés, ils m'ont envoyé des échantillons, et je les ai passés au labo. Effectivement, on est sur un 100% papier, sauf un tout petit peu de vernis pour la colle, pour la fermeture. Mais ce que je soulève quand on fait sur des lignes de conditionnement, quand on passe d'un 100% plastique qui marche depuis toujours, quand on passe à un 100% papier, c'est la même ligne de conditionnement, sauf qu'on est obligé de la modifier. Le papier coûte beaucoup plus cher que le plastique, donc c'est un vrai effort. Donc on peut pas dire que les gens essayent pas de travailler, etc. Après, est-ce qu'il fallait vraiment le faire en papier plutôt qu'en plastique? Ben pour ça, il faut faire une analyse de cycle de vie, entre autres, sur l'ensemble du produit.
Alors, je vous donne tout de suite la parole, Nicolas Furet, vous voulez répondre. Tout de suite, je vous donne la parole.
C'est en effet est très important d'avoir une analyse de cycle de vie. Et chez Citeo, on essaye de développer des outils hein, pour aider les entreprises à faire ce travail d'éco-conception, à identifier quelles sont les bonnes solutions. On a parlé tout à l'heure du recyclage, du réemploi, de la réduction. C'est important peut-être de rappeler d'abord l'utilité de l'emballage. L'emballage, il vient pour protéger un produit. L'impact environnemental du gaspillage alimentaire, si on parle de l'aliment, il est énorme en termes environnementaux, en termes de consommation d'eau, en termes d'émissions de CO2. Donc l'emballage, il a son utilité. Il y en a certains qui a du suremballage, et celui-là, il faut le supprimer. Et ensuite, l'analyse du cycle de vie pour trouver la bonne solution entre réemploi, entre recyclage, entre choix d'éco-conception, elle est indispensable et elle doit se faire entreprise par entreprise parce que les critères qui rentrent en jeu sont des critères associés aux produits, à la géographie des lieux de production, des lieux de consommation, etc.
Oui, alors vous avez la parole, mon cher François Guébélil, ça vous faisait réagir
Par rapport aux investissements, parce que c'est vrai que nous, on fait plein de petits investissements pour essayer d'avancer. Vous prenez l'exemple du changement du plastique au papier. Et nous, l'année dernière, on est passé, donc on emballait nos canettes avec du plastique, les canettes de 6, là, les packs que vous trouvez dans vos magasins, et on a décidé de passer au carton, avec une petite cartonnette au-dessus des canettes. Et ça a été difficile, il faut se le dire. C'est la transformation industrielle de passer de cet emballage très simple à faire autour des canettes à une petite cartonnette en papier, ça a été difficile. Mais les consommateurs ont mis du temps à s'y adapter parce qu'il y a une rééducation. Alors il faut que je la prenne différemment, je ne peux pas prendre par la canette parce que la canette sortait du carton. Donc on a pris des risques, mais on sera obligé de prendre des risques pour arriver à trouver des solutions. Et je pense que le rôle des grands groupes, c'est aussi de faire avancer leurs fournisseurs pour pouvoir aller vers des solutions qui soient pérennes, qui puissent ensuite proposer à des entreprises de taille moyenne. À la fin de l'année, on va passer, nos bouchons seront attachés à nos bouteilles. On a travaillé, c'est pas nous qui le faisons, c'est nos fournisseurs avec lesquels on a travaillé pour que les bouchons soient attachés, que ça soit plus facile de recycler la bouteille et le bouchon en même temps. Et on a commencé en Espagne, il y a eu des petits soucis, on affine, on va travailler, on est en train de le faire en Allemagne et on va le faire en France à partir de la fin de l'année. Ça va être des investissements, mais il faut, c'est là où toute la chaîne de valeur doit travailler ensemble. Et avec ces efforts qu'on fait tous de l'amont à l'aval, on arrivera à des progrès. Et moi, j'en suis convaincu. Mais le rôle des grandes entreprises, c'est de pousser ça, de pousser leur écosystème, je pense, à avancer.
Oui, Joseph Taïfé.
Oui, alors la question de l'indépendance et c'est une question de souveraineté.
Absolument.
Hein, cette histoire de déchets, de récupération des déchets. Est-ce que l'avenir est dans nos poubelles? C'est l'avenir économique. Alors pour l'instant, c'est des bouteilles qui vont être concernées, mais c'est pas impossible effectivement que l'Europe élargisse ça à d'autres types d'emballages. Il va y avoir des obligations d'incorporation de matières recyclées. Donc la matière recyclée issue des déchets va devenir stratégique. Donc ça va entraîner effectivement, j'ai presque envie de dire, un peu une guerre économique entre parfois les différents acteurs qui voudront récupérer cette matière. Donc la question qui se pose, et c'est une question qui s'était posée à l'époque pour la consigne, mais je pense que dans un climat apaisé, elle pourra être posée de nouvelles fois, c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement de cette matière et comment on permet au plus grand nombre d'y avoir accès. Aujourd'hui, on a même des plasturgistes aujourd'hui qui sont obligés d'aller à l'étranger chercher de la matière première recyclée. On n'en trouve pas en France. Donc c'est quand même un peu dommage pour faire de l'écologie d'aller à l'étranger chercher du recyclé. Vous voyez le bilan CO2, le bilan carbone du transport pour le ramener en France. Et surtout, c'est là où on revient encore à l'histoire européenne, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, les autres pays européens, et je précise que l'Allemagne et l'Italie sont devant la France au niveau plastique, hein, c'est les deux numéro un, c'est les deux premiers au niveau européen, ils sont pas heureux. Hein, ces pays-là sont pas heureux que la France soit pas bonne dans le recyclage des plastiques. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en allant se fournir chez eux, en important, et on importe de plus en plus de déchets plastiques de l'étranger, il faut le dire, on en exporte plus, mais on en importe quand même de plus en plus, hein, ce qui est quand même fou. Il faut voir, c'est les chiffres du syndicat des régénérateurs de plastique qui le montrent. Hein, d'année en année, on importe de plus en plus de déchets plastiques, c'est quand même bizarre. Et donc, en l'occurrence, on va créer de la tension chez ces pays-là. C'est-à-dire que ces pays-là vont être soumis à la même réglementation d'avoir aussi du recyclé chez eux. Et on est en train de leur piquer un peu le pain de la bouche. Donc, à un moment donné, si on veut avoir une autonomie, on va dire, stratégique, en France, et j'ai envie de dire, il y a quand même rien de plus local que la collecte et le tri. J'ai envie de dire, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Il faut effectivement que le gouvernement y mette du sien, et surtout est une politique cohérente. C'est-à-dire que on passe, on va dire, du répressif et de l'interdiction à l'encouragement vers des investissements. Alors investir pour la consigne, investir vers des centres de tri, investir vers du recyclage, soutenir, comme ils l'ont fait quand même sur certains points, les recycleurs chimiques, mais sans oublier également ceux qui sont pour le recyclage mécanique, parce que c'est pareil. On a encore les chapelles de je suis pour le recyclage chimique ou je suis pour le recyclage mécanique, etc. Mais il faut effectivement qu'on travaille tous ensemble parce que c'est un enjeu vraiment de souveraineté. Et avec cette politique qu'on veut qu'on est obligé d'y aller, c'est-à-dire plus de pétro-sourcés, diminuer le pétrole, diminuer les ressources fossiles, le recyclage, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai envie de dire, dès lors que vous faites du recyclage, votre balance commerciale va devenir excédentaire. Mais si on commence à importer les déchets de l'étranger, là, on n'aura rien gagné.
C'est intéressant parce que nous, on a investi il y a une quinzaine d'années dans une joint venture, dans une usine de recyclage à Beaune avec Plastipack, qui est une des plus grandes usines en termes de capacité. On peut traiter à peu près 1,5 milliard de bouteilles par an, 50 000 tonnes de plastique. Et en fait, elle ne tourne pas à plein parce qu'on n'a pas assez de matière qui vient. Donc pour faire tourner l'usine, il nous est arrivé souvent d'aller acheter de la matière en Italie, en Allemagne, parce que la collecte est mieux organisée. Ce qui est, je suis d'accord avec vous, un non-sens complet. Mais il faut faire tourner cette usine, et donc il faut qu'on améliore l'amont, c'est absolument critique.
Ah, Nicolas Furet, on marche un peu sur la tête hein, de temps en temps quand on écoute ça.
Oui, en fait, on marche sur la tête, on essaye, on voit qu'on est sur une interdépendance des différents cycles. Et donc, arriver à coordonner à la fois les mouvements dans les entreprises sur l'intégration de recyclés, le mouvement de collecte pour avoir le bon gisement, le mouvement des filières de recyclage pour effectivement avoir de la matière secondaire. C'est pas si facile que ça. Ça demande beaucoup de coordination, ça demande des investissements et ça demande aussi du temps parce qu'on est sur un temps industriel, on est sur un temps de consommateur et sur un temps d'investissement lourd et avec des filières, y compris chez les metteurs en marché, chez les industriels, qui n'ont pas exactement les mêmes rentabilités et les mêmes temps de retour sur investissement. Donc, c'est pas des choix simples. Et y compris au niveau politique, on voit qu'on n'a pas toujours eu une cohérence et une vision moyen-long terme qui est indispensable pour permettre ces investissements. On a beaucoup de lois qui succèdent et on a besoin aussi d'avoir un cadre qui nous sécurise sur une vision long terme qui soit cohérente avec ces enjeux d'investissement.
La visibilité, c'est clé. C'est là où on décidera d'investir à 20 ans ou à 30 ans. Il faut qu'on le sache maintenant.
Je voudrais dire juste un dernier mot sur le plastique. Peut-être une parole qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, une disparition rapide de l'utilisation du plastique poserait des questions. Elle poserait des questions en termes d'émissions de CO2, parce qu'aujourd'hui, c'est un matériau léger et qui a une efficacité. Alors, il y a un enjeu d'améliorer la collecte, d'améliorer le sujet des déchets abandonnés, c'est vrai. y compris à l'international. Mais se passer du plastique du jour au lendemain, elle pose cette question-là, elle pose une autre question. C'est si le plastique n'est plus utilisé, qu'est-ce qu'on va faire des gisements de plastique qui sont aujourd'hui en circulation? S'il n'a plus de valeur, comme on le disait tout à l'heure, plus personne ne s'en occupera et ça fera des montagnes de déchets abandonnés. Donc il faut faire attention aux solutions simplistes ou aux images qu'on peut véhiculer sur ce sujet du plastique.
On a parlé beaucoup de sécurité alimentaire ces derniers mois. Et le plastique a quand même des qualités exceptionnelles en termes de sécurité alimentaire.
C'est vrai.
Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative pour beaucoup des produits humides ou en particulier. Il n'y a pas d'alternative crédible qui soit aussi mieux disante en carbone. Parce que, encore une fois, la mère des batailles, c'est quand même la réduction de l'empreinte carbone. C'est le seul objectif sur lequel les États ont réussi à se mettre d'accord au moment des accords de Paris. C'est réduire l'empreinte carbone. Parce que si on a un objectif comme ça, on peut y arriver. Quelles sont les meilleures solutions pour y arriver? La science, maintenant, est assez claire sur la capacité de certaines filières à réduire leur empreinte carbone.
Il faut regarder ce qui se passe au niveau du papier aussi. Hein. Ça, c'est intéressant.
On était au plastique et deux, trois choses à dire.
Tout à fait. Mais surtout qu'en plus, avec tout le phénomène de lutte contre la déforestation, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a vu à Paris, pour quelques arbres, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Tour Eiffel. Le carton, le papier, c'est des forêts. Et quand on veut être en contact alimentaire, on va dire, il faut du vierge. Hein. Donc à un moment donné, après, on peut dire qu'il y a des normes FSC, des forêts gérées durablement. Mais à un moment donné, il n'est pas possible de remplacer l'ensemble des plastiques par du carton. À notre sens, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le carton, certainement, a un rôle pour certains types d'emballages. Le plastique pour d'autres. Mais aujourd'hui, on essaye de faire croire que le carton peut devenir du plastique. Donc c'est pas possible aujourd'hui, très clairement. Et vous parliez du contact alimentaire, l'Europe aujourd'hui est en train effectivement de remettre à jour effectivement la partie food contact sur la partie plastique et les emballages. Donc tout est, on a cette sécurité là hein, avec notre industrie qui, je le rappelle encore, on l'avait dit déjà la dernière fois, mais elle est quand même la troisième européenne et la numéro 2 en termes d'innovation. Hein. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est d'évoluer et d'augmenter notre pourcentage de recycler et je pense que ça c'est quelque chose qui est commun, je pense, aux deux tables rondes, c'est qu'on arrête l'enfouissement au moins ou un autre, quoi. Je veux dire, c'est vraiment autant la valorisation énergétique pour nous, c'est vraiment, voilà, c'est la solution de dernier recours, mais c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Mais l'enfouissement aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment, on va dire, un consensus pour dire qu'effectivement il faut soit alourdir les taxes dessus, soit enfin trouver une solution pour en tous les cas les arrêter, je crois, là-dessus. Alors le gouvernement, Emmanuel Macron d'ailleurs, avait annoncé à Marseille qu'il voulait fermer 50 décharges à ciel ouvert, etc. Donc bon, voilà, ça va dans ce sens-là. Donc ça va dans le bon sens. Voilà.
La bonne nouvelle, c'est que s'il y a une bonne nouvelle dans la crise qu'on est quand même en train de traverser d'hyperinflation, c'est qu'avec l'augmentation des coûts des matières premières vierges, la viabilité économique des matières recyclées devient plus facile. Donc moi, j'essaye de voir un peu le verre à moitié plein. C'est que oui, c'est compliqué pour toute l'industrie aujourd'hui. Les augmentations de coûts sont considérables. Mais du coup, ça va, je pense, donner une viabilité économique plus rapidement aux matières recyclées. Donc sur le plastique, sur l'aluminium, sur beaucoup de matières recyclées. Donc je pense qu'il faut qu'on peut le voir de ce côté-là aussi. Et ça peut être un avantage compétitif pour la France si jamais on arrive à développer cette filière. Et je pense que c'est une des ambitions du plan de relance ou de France 2030. C'est d'investir dans cette industrie pour en faire un avantage compétitif pour le pays.
Nicolas Furet, Citeo a pour objectif de donner les clés aux consommateurs hein, pour réduire l'impact environnemental de leur consommation. Donc on parlait plastique, vous vouliez parler carton, qu'est-ce que vous vouliez rajouter là-dessus?
Non, je disais que c'était important d'investir dans la recherche et développement sur aussi des alternatives, parce qu'on l'a dit, chaque matériau a sa place en fait, et son utilité et son intérêt par rapport à différents produits. Et donc, il faut investir sur la filière papier, sur la recherche et développement pour faire des alternatives à la fois au verre, au métal, au plastique, parce que chacun des matériaux a un usage et l'enjeu de ces ACV, c'est bien de trouver le bon matériau et le bon moyen, le juste emballage, l'arbitrage entre ce qui va être réemployable ou ce qui va être recyclable, et en plus, après, l'arbitrage entre ce qui va être recyclé d'un point de vue mécanique, recyclé chimiquement, pour nous permettre aussi de retourner à l'emballage au contact alimentaire, qui est essentiel pour avoir des débouchés viables sur ces différents matériaux.
Arnaud Le Bérigo, un petit mot de conclusion?
Ouais, concernant le recyclage, alors moi je me bats pour augmenter, améliorer le recyclage des plastiques. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les modes de consommation, notamment en France, enfin, je veux dire, ça évolue pas autant que ça. Alors, ok, il peut y avoir quelques personnes qui sont, qui vont plutôt vers le vrac. Moi, c'est mon cas, par exemple. Mais enfin, c'est Epsilon, donc c'est pas ça non plus. Et surtout, quand on switch, et là je reviens sur ce que vous disiez, quand on switch d'un matériau à l'autre, en fait, je pense qu'on amplifie le problème. Dernièrement, on m'a demandé de travailler sur des pots de crème en plastique qui sont recyclables et qui pèsent 10 grammes, et de switcher sur du verre, 10 fois plus lourd. J'ai dit non. Enfin, et on essaye comme ça d'emmener nos clients en leur posant un maximum de questions. Alors des fois, je sens bien que ça agace, mais il faut vraiment qu'on pousse les gens au maximum dans les cordes pour que tout le monde se rende bien compte que des fois, les pistes qui sont choisies ou qui sont préconisées, bah, c'est pas forcément les bonnes. Je parle du verre, mais si je parle du carton par exemple, vous passez d'un emballage plastique qui pèse 10 grammes par exemple, à fonction équivalente, si vous passez sur un carton plastifié, hein, bah vous multipliez par 2 ou par 3 le poids. Qu'est-ce qu'est le mieux finalement ? Eh ben, il faut calculer analyse de cycle de vie systématique.
Mais pour ça, il faut qu'on ait du gouvernement la même grille de lecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on regarde tous le cycle de vie, l'impact du cycle de vie de chaque emballage de la même façon. Aujourd'hui, chacun a sa façon de compter et donc on ne peut pas se mettre d'accord sur ce qui est le mieux disant. Et ça, c'est ce qu'on attend du gouvernement, de l'ADEME, c'est de nous clarifier, ok, un emballage X, Y, Z, quel est son impact en termes d'empreinte carbone sur tout le cycle de vie? Et ensuite, on peut comparer et prendre des décisions qui soient basées sur la science et pas sur la petite cuisine interne de comment, pourquoi mon emballage est meilleur que l'autre. Je pense que c'est là où on a besoin d'une direction du gouvernement et des institutions.
Même s'il y a quand même un critère, je pense, que sur lequel tout le monde est d'accord, c'est l'émission de gaz à effet de serre. C'est-à-dire les objectifs européens, on revient toujours à l'Europe, mais de toute façon, c'est la boussole. Hein, 2050, zéro gaz à effet de serre. Sans plastique, ce ne sera pas possible, tous les cas. Hein, ça, c'est clair.
Est-ce que vous voulez un mot de conclusion, François Gabelli? Sinon, on va aller vers... la conclusion, puisque l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, est arrivée et on va passer à la dernière séquence.
Non, moi, la seule chose que je veux dire, c'est que je suis optimiste sur notre capacité à travailler ensemble et à trouver les solutions. Elles existent, il suffit qu'on se mette autour de la table et puis qu'on avance avec un gouvernement qui nous donne une direction et qui ne change pas de direction tous les 2 ans. Moi, je reste très optimiste sur notre capacité à trouver les solutions et à les mettre en place en France.
Merci messieurs pour cette participation à cette table ronde. Peut-on tout recycler vers une nouvelle rentabilité? J'espère que ça vous a intéressé. Mais ce n'est pas fini, le colloque éthique, puisque on passe à la séquence de conclusion avec Corinne Lepage et Lucie Muniesa du groupe Paprec Group. À tout de suite.